Critical Secret.
L'idée, évidemment, qu'on trouve aussi en musique, avec la nouvelle objectivité, par exemple, l'idée qu'il ne faut pas non plus, par exemple, écrire des partitions trop raffinées, par exemple, pas de cordes, les cordes sont le raffinement même, mais plutôt des instruments avant, ce qui s'appelle la musique de plein air, la fanfare. Et donc, toute cette différente figure, comme ça, de cette préoccupation de s'adresser à la collectivité, d'être en phase avec les temps nouveaux, où tout doit être clairement lisible et non pas se comprendre simplement comme la production subtile et locale d'un esprit. Mettons Schoenberg par rapport à Stravinsky ou Hindemith. Effectivement, donc, beaucoup de gens se sont interrogés sur cette idée, sur ce paradoxe un tout petit peu bête. Évidemment, la radio s'adresse en même temps à beaucoup de gens en même temps, et elle est pourtant reçue par un seul individu. Alors que faire? Est-ce que c'est une écoute collective ou une écoute individuelle, en fait? Alors ça, c'est les discussions au début, dans les années 20, qui se sont un tout petit peu simplement éteintes par les progrès techniques, tout simplement. Alors là, il y a une littérature abondante, et dans les revues musicales, par exemple, ou musicologiques purement, c'est une discussion très, très nourrie sur le type d'effectifs musicaux qui passent à la radio, tout simplement. Au début, on avait constaté que les violons passaient très mal, que les contrebasse produisait un bruit tout à fait informe, qu'on n'arrivait pas à faire les plans, et que du coup, tout ce qui passait à la radio devait, par exemple, accentuer plutôt les instruments avant. Ça tombe bien, dans les années 20, on aime ça précisément, vous voyez, il y a une espèce d'harmonie. Mais après, bien sûr, on a fait des expériences acoustiques aussi assez, assez curieuses. On a retransmis, par exemple, un prélude de Wagner, 5 fois de suite avec une disposition de micro différente, et les auditeurs étaient censés voter, téléphoner pour dire « ah oui, là on entend mieux ». Enfin, on était très préoccupés sur les pertes du timbrique qu'entraînait la disposition des micros, eux-mêmes encore un peu rudimentaires. Mais disons ça, à la fin des années 20, ça s'est un tout petit peu perdu, ces discussions sur la musique radiogénique en elle-même. Et on avait compris qu'au fond, on avait l'oreille s'était habituée à la fois aux pertes nécessaires et arrivait tout de même à reconstruire cette perte, enfin la compenser d'une certaine manière. Là, je parle uniquement d'un certain type de musique symphonique ou quatuor ou piano, etc. Alors Arnheim, par exemple, remarque que à l'opéra, quand vous êtes devant une action très très fouillée avec beaucoup de personnages sur scène, au fond l'œil arrange la chose, c'est-à-dire que s'il y a des personnages secondaires qui sont dans le fond, ou que dans un duo quelqu'un se met à chanter très lentement, eh bien on voit bien que les autres se taisent. Et vous réglez votre perception à la fois visuelle et acoustique sur la personne qui chante, enfin sur le chanteur. À la radio, non, il trouvait, lui, qu'il y avait une sorte d'inquiétude, de fouillis. On ne comprenait pas pourquoi d'un coup une personne chante et les autres, ben, qu'est-ce qu'elles faisaient, elles disparaissaient, étaient encore là ou non, est-ce qu'elles étaient en train de préparer l'assassinat de la personne qui chante ou non, des choses qu'on voit sur, évidemment, quand on est dans la salle. Et à la radio, au contraire, cela bouleversait totalement toute la hiérarchie de la perception. Et donc, il fallait trier dans le répertoire des opéras. C'est l'exemple que lui prend. Prendre des opéras plutôt pour la diffusion où il y avait une alternance très régulière entre une personne qui chante, l'autre sort, l'autre se met à chanter. Enfin bon, c'est le type qu'on trouve dans l'opéra baroque, surtout dans Handel. Et pour lui, il trouvait que Handel était radiogénique. C'était un compositeur déjà 300 ans avant et qui était radio-friendly.